Grâce à Philby, nous savions tout. Nous savions où les saboteurs allaient arriver, où les armes allaient être parachutées. Nous savions tout.
Il était très intelligent, avec une grande connaissance du renseignement britannique. Il en faisait partie intégrante. Rappelez-vous, Kim a même failli devenir le chef des services secrets britanniques. Cela veut dire qu'il savait tout de l'organisation. Une connaissance que nous n'avions pas, bien sûr.
Kim Philby, un des espions les plus célèbres du XXe siècle, mais aussi encore aujourd'hui l'un des plus énigmatiques. Cet Anglais avait en apparence tout pour lui, la naissance, la richesse, l'intelligence, la meilleure éducation et un charme fou. Peu d'hommes et de femmes y résistaient. Entré dans les services secrets de Sa Majesté en 1940, Philby en a gravi brillamment tous les échelons, jusqu'au point presque d'en devenir le grand patron, et ceci en pleine guerre froide. En réalité, jamais un espion n'était allé si loin dans la traîtrise. Car Kim Philby était en fait une taupe, travaillant pour les services secrets soviétiques. La révélation de l'affaire traumatisa durablement l'Angleterre. C'est le 23 janvier 1963 que tout a basculé pour Kim Philby, que son personnage, savamment construit de gentleman au-dessus de tout soupçon, s'est subitement désintégré un soir d'orage à Beyrouth, au Liban. Kim Philby travaille alors officiellement comme correspondant de presse au Moyen-Orient. Ce jour-là, il téléphone à Eleanor, son épouse, pour la prévenir qu'il sera en retard au dîner chez le premier secrétaire de l'ambassade britannique. Qu'elle ne l'attende pas, il la rejoindra plus tard. Mais au dîner, il n'arrivera jamais. Ce soir-là, Kim Philby va disparaître sans laisser aucune trace. 6 mois plus tard, à la stupeur générale, Moscou fera savoir officiellement que Philby a reçu l'asile politique en URSS ainsi que la citoyenneté soviétique. Ce que certains soupçonnaient depuis longtemps, mais que les plus hautes instances des services secrets britanniques refusaient de croire, se vérifie donc. Le très distingué Kim Philby était un espion soviétique, et ceci depuis 30 ans. Cette aventure a commencé dans les années 1930 au Trinity College de Cambridge, l'une des universités les plus prestigieuses d'Angleterre, véritable machine de reproduction de classe qui fabrique l'élite de l'Empire. Masculine, bien sûr. Surnommé Kim par ses parents en référence au roman de Rudyard Kipling, le jeune et brillant Harold Philby, né en 1912, appartient au monde de la gentry. Et pourtant, secrètement, ce monde, il le rejette. Tout comme St. John Philby, son aventurier de père, mystérieux et lointain. Ce diplomate et espion qui déteste l'establishment vit en Arabie Saoudite, où, converti à l'islam, il est devenu l'ami du roi Im Seoud. St. John Philby est aussi un sympathisant nazi, proche de l'extrême droite anglaise. Comment ressembler à ce père absent et en même temps, comment s'en distinguer? Sa révolte, sa religion à lui, Kim va les trouver dans le marxisme-léninisme, professé à Cambridge par Maurice Dobb, économiste et rabatteur zélé du Parti communiste anglais. Alors qu'en 1933, Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, le professeur explique à ses étudiants fascinés qu'il n'existe qu'un moyen pour lutter contre le fascisme, s'engager au parti et défendre la cause de la révolution bolchévique. À Cambridge, Kim Philby se lie avec trois étudiants, brillants comme lui et partageant la même révolte. Guy Burgess, Anthony Blunt et Donald McLean. Un lien, mélange d'amitié intellectuelle et d'homosexualité plus ou moins assumée, d'élitisme aristocratique et d'engagement communiste, qui même dans l'espionnage, les unira jusqu'à la mort. Soudés entre eux par une sorte de pacte avec le diable dont il sera impossible de s'échapper. Dans le réseau de Cambridge, il y aura aussi un cinquième homme, John Cairncross, dont l'identité ne sera connue qu'en 1990. Futur espion extrêmement efficace lui aussi, mais il n'a pas droit au cercle des intimes. Kim Philby, bien que marxiste-léniniste, n'a que mépris pour ce plouc d'écossais boursier. L'engagement communiste de Philby doit beaucoup aussi à une femme. En 1933, lors d'un voyage en Autriche, alors en pleine guerre civile, le jeune Anglais de 22 ans tombe éperdument amoureux de Lizzie Friedman, une militante communiste qui l'entraînera dans la clandestinité. Toute sa vie, Philby se souviendra de leur première rencontre.
Lizzie, une personne franche et directe, est entrée et m'a demandé
« Combien d'argent avez-vous ?»
Je lui ai répondu « 100 livres sterling ». Avec cette somme donnée par ma mère, je comptais vivre pendant un an à Vienne. Elle a fait quelques calculs et m'a annoncé
« Vous pourrez garder 25 livres. Le reste, donnez-le à l'Organisation internationale d'aide aux révolutionnaires. Nous en avons terriblement besoin. »
J'ai tout de suite aimé sa détermination.
Kim et Lizzie deviennent amants. La première fois qu'ils font l'amour, racontera-t-il, c'est sur la neige, dans une petite rue de Vienne. La passion amoureuse et politique est si forte que lorsque Lizzie est menacée d'être arrêtée, Kim n'hésite pas, il l'épouse. Et les deux peuvent partir ensemble en Angleterre. C'est grâce à Lizzie que Kim, à Londres, rencontre Otto Deutsch, un important agent du NKVD, les services secrets soviétiques, ancien nom du KGB. Homme cultivé et charismatique qui devient l'officier traitant de Philby et de ses amis de Cambridge. Ces brillants étudiants anglais. Quelle aubaine pour l'URSS. Mais leur foi dans le communisme ne suffit pas. C'est ce qu'Otto Deutsch explique à Kim lorsqu'il se retrouve, comme d'habitude, sur un banc de Regent's Park en plein centre de Londres.
Vous ne comprenez pas ? C'est quelque chose en quoi je crois. La passion communiste. Vous et vos amis portez sur vous votre passion rouge. Ce qui pose problème. Je ne comprends pas. Mettez de côté votre colère et vos sentiments. Ils vous appartiennent, vous ne les perdrez jamais. Mais personne ne doit connaître votre passion. Elle doit rester secrète. Et votre passé doit être enterré.
Pour être utile, Kim doit entrer dans l'establishment et rompre ostensiblement avec son passé communiste, devenir le contraire de ce qu'il est et jouer à ce qu'il n'est pas. Un jeu excitant mais dangereux où l'espion se révélera assez fort, même si à grands coups de whisky et de vodka, il y laissera quelques plumes. Pour Kim Philby, c'est le début de sa double vie qui ne s'achèvera qu'en 1963. Affichant désormais des opinions très conservatrices, il rompt avec Lizzie et épouse bientôt Eileen, une femme de bonne famille avec laquelle il aura 5 enfants. Et toujours sur ordre de Moscou, il devient journaliste. Pour le Times, il couvre la guerre d'Espagne, où il réussit le tour de force de se faire décorer par Franco, tout en continuant bien sûr à envoyer des informations au NKVD. Mais le plus extraordinaire arrive en 1940. À son retour en Angleterre, Kim Philby, chaudement recommandé par son copain Guy Burgess, réussit à se faire embaucher au MI6, les services secrets britanniques. On peut s'étonner que le MI6 ait accepté aussi facilement un ancien sympathisant communiste. Les recruteurs ont, semble-t-il, été totalement aveuglés par le charme et les bonnes manières de l'ancien de Cambridge. À Moscou, on n'en revient pas et on se frotte les mains. Philby et Burgess sont au MI6, Anthony Blunt au MI5, le contre-espionnage, John Cairncross et Donald McLean au Foreign Office, dans la diplomatie. C'est presque trop beau pour être vrai. Au point que le NKVD ne cessera de se demander si les cinq de Cambridge ne travaillent pas en réalité pour l'Angleterre. Mais la masse d'informations capitales qu'ils envoient régulièrement à Moscou ne peut que les rassurer. Philby, par exemple, fournit aux Russes la totalité de l'organigramme de l'Intelligence Service. Quant à la solidité de leur engagement, les cinq de Cambridge ont bien eu, c'est vrai, un petit vague à l'âme lorsqu'en août 1939, leur patrie de cœur, l'Union soviétique, a signé un pacte de non-agression avec l'ennemi absolu, l'Allemagne nazie. Mais pas de quoi tout remettre en question. Par chance, d'une certaine manière, en juin 1941, l'invasion de l'URSS par les armées d'Hitler change la donne.
Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet.
Philby et ses amis fêtent l'événement. L'URSS, désormais alliée de l'Angleterre, entre dans la guerre contre Hitler. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Kim Philby n'est loyal qu'à une seule patrie, l'URSS. Et s'il prétendra plus tard dans ses mémoires que jamais dans sa carrière d'espion il n'a mis en danger la vie de quiconque, il est clair qu'il ment. En 1943, par exemple, il est probable qu'il porte la responsabilité de l'accident d'avion qui, à Gibraltar, a coûté la vie au général Sikorsky. Un Polonais qui connaissait la responsabilité de l'Union soviétique dans le massacre de milliers d'officiers polonais à Katyn. Moscou avait donc tout intérêt à le faire disparaître.
Le monde entier célèbre la fin de la guerre en Europe. Il y a un peu plus de 5 ans, Hitler marchait sur la Pologne. Des années de souffrance, de mort et de sacrifices. Maintenant, la guerre sur l'Allemagne est gagnée.
Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale est à peine terminée en Europe qu'une autre guerre a déjà commencé. Celle qui oppose l'Est et l'Ouest et qui bientôt divise l'Europe en deux. Ce que Churchill constate avec une certaine amertume lors de son fameux discours de Fulton.
De Stettin, sur la Baltique, à Trieste, sur l'Adriatique, un rideau de fer est tombé sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent désormais dans ce que je dois appeler la sphère soviétique.
Dans la guerre froide qui commence, Kim Philby prend parti sans état d'âme pour le camp soviétique. D'autant que depuis 1944, il occupe un poste stratégique au sein du MI6. Chose à peine croyable, il dirige la section anti-soviétique chargée de traquer les espions russes travaillant en Angleterre. Une nouvelle section qu'il a lui-même créée. Philby peut ainsi prévenir les agents russes repérés et empêcher leur arrestation, et bien sûr, éviter qu'il soit lui-même démasqué. À ce poste, il est aussi un des premiers informés quand un agent soviétique fait défection à l'Ouest. Le 4 septembre 1945, à Istanbul, en Turquie, un citoyen russe se présente avec sa femme à l'ambassade britannique. L'homme est très nerveux. Konstantin Volkov, agent soviétique, a décidé de faire défection et exige de parler au consul général. Il lui demande de l'argent et le droit d'asile pour lui et sa femme. En échange, il est prêt à donner les noms de centaines d'agents soviétiques en Turquie et en Grande-Bretagne. Mais plus incroyable, il affirme que deux diplomates du Foreign Office à Londres espionnent pour l'Union soviétique, de même qu'un troisième homme à un poste très élevé du British Intelligence Service. Mais ils ne donnent pas leur nom. Le consul prévient immédiatement Londres. Mais qui au MI6 s'occupe des affaires soviétiques ? Philby, bien sûr, qui comprend tout de suite que les noms que Volkov s'apprête à donner sont ceux de Burgess, MacLean et le sien. Philby décide de régler l'affaire lui-même et de se rendre à Istanbul. Mais il va attendre 3 semaines avant de faire le voyage. Entre-temps, il aura prévenu les Soviétiques qui auront enlevé Konstantin Volkov et sa femme. Bourrés de sédatifs, emmaillotés dans des bandages, ils sont embarqués en civière dans un avion de l'aéroflotte, direction Moscou. On ne les reverra jamais. Kim Philby l'a échappé belle.
Hiroshima, Nagasaki, puissent ces noms rappeler au gouvernement leur terrible responsabilité au moment où le problème nucléaire, échappant au contrôle d'une seule nation, atteint véritablement à l'échelle mondiale.
En 1949, l'Union soviétique fait exploser sa première bombe atomique. Une preuve de plus de sa supériorité alors en matière d'espionnage. Grâce entre autres au travail de Kim Philby. 1949 est l'année de sa consécration. Londres l'a nommé chef du MI6 à Washington. Il embarque donc pour les États-Unis avec sa femme et ses 5 enfants. Sa femme Eileen, qui souffre de dépression et d'alcoolisme. Pas simple de vivre avec cet homme qu'elle soupçonne d'être un agent double. Philby, lui, jubile. À son nouveau poste, il peut avertir Moscou de tout ce que la Grande-Bretagne et les États-Unis trament contre le bloc soviétique. C'est ainsi qu'il apprend la préparation de l'opération Valuable en Albanie. Une opération qui vise à renverser le régime communiste d'Enver Hoxha. À plusieurs reprises, des commandos d'exilés albanais, entraînés par les Américains, sont parachutés en Albanie. Mais l'opération est un désastre. À chaque tentative, les équipes sont attendues au sol, arrêtées par la Sigurimi. La terrible police secrète albanaise était prévenue des parachutages par Kim Philby via l'Union soviétique. Yuri Modin, l'officier traitant de Philby, le confirmera des années plus tard.
Grâce à Kim Philby, nous savions où les saboteurs allaient arriver. Nous savions où les armes allaient être parachutées. Nous savions tout. Ils nous informaient à temps sur les traîtres. Vous pouvez imaginer à quel point c'était important pour nous.
Philby tentera plus tard dans ses mémoires de se justifier.
Les hommes envoyés en Albanie étaient des soldats entraînés, qui savaient les risques qu'ils prenaient. Je servais les intérêts de l'Union soviétique, qui réclamait que ces hommes soient vaincus. J'ai participé à leur défaite et même si cela a causé leur mort, je n'ai aucun regret.
Si 1949 est l'année de la consécration de Philby, elle est aussi celle des premiers soupçons à son encontre. Philby apprend que les Américains, depuis quelques années, ont mis au point un programme, nommé Venona, qui permet de déchiffrer les messages codés soviétiques. Et fin 1950, Venona révèle la présence au Foreign Office à Londres d'une taupe soviétique surnommée Homer. Philby comprend immédiatement qu'il s'agit de Donald MacLean et prend peur. Si MacLean est arrêté et parle, c'est tout le réseau qui risque de tomber, lui compris. Eileen, l'épouse de Philby, est plus angoissée que jamais. Sa fille s'en souvient.
Je pense que ma mère était tout le temps inquiète. Un jour, elle a dit à sa meilleure amie, « Je suis terrifiée à l'idée que Kim parte un jour à Moscou et emmène les enfants. »
Vous voulez dire qu'elle savait qu'il était un espion ?
Je ne sais vraiment pas. Je pense que sans doute elle le soupçonnait. Il avait été accusé. Vous savez, ça doit être très difficile de ne pas savoir, même s'il était très très bon. De toute évidence, il était excellent. Il s'en sortait toujours quand il était questionné par les autorités. Il s'en sortait.
Alors que l'étau se resserre, c'est le vieux copain de Philby, Guy Burgess, agent double lui aussi en poste à Washington, qui part en Angleterre prévenir McLean qu'il est grillé. Le 9 mai 1951, Moscou donne le feu vert à son exfiltration et pousse Burgess à partir avec McLean. Le 25 mai, à minuit, les deux espions embarquent à Southampton pour un long périple qui, par la France et la Suisse, les conduira à Prague, puis en URSS. Ils ne reverront jamais l'Angleterre.
La BBC, les dernières informations. Comme on s'y attendait, le ministre des Affaires étrangères a évoqué aujourd'hui au Parlement la disparition des deux membres du Foreign Office, messieurs McLean et Burgess.
Cette disparition rend immédiatement Philby suspect. Sa première réaction est de prendre sa voiture et d'aller enterrer dans un bois le matériel avec lequel, depuis des années, il photographie les documents pour Moscou. Comme il le pressentait, les services secrets américains ne veulent plus collaborer avec lui. William Colby, de la CIA, se souvient de la défiance que lui inspirait Philby à cette époque.
Si on avait soumis M. Philby au détecteur de mensonges à la fin des années 40, je pense qu'on l'aurait démasqué. Je pense que Kim Philby était très étrange dans ses habitudes personnelles, et surtout les autres membres de ce complot. Ils buvaient trop, ils draguaient trop. C'était des personnes qui ne savaient pas se tenir. C'était incroyable qu'ils aient pu tenir si longtemps. Cela s'explique en partie par le système social britannique, dans lequel, si vous venez de la bonne université, vous êtes accepté d'office.
Philby rentre en Angleterre en 1951. Une enquête est conduite contre lui, mais en l'absence de preuves, il n'est pas poursuivi et le MI6 le met à la retraite. Tandis que les soviétiques ne reprennent plus contact avec lui. Commencent des années difficiles où Philby, revenu à la vie civile, peine à trouver du travail. Mais son passé va le rattraper en 1955, quand la presse révèle que Burgess et McLean, officiellement disparus, ont en réalité fui en Union soviétique. Une nouvelle qui lance dans le grand public une question sensationnelle. Kim Philby, qui a quitté récemment le MI6, était-il le troisième homme ? Mais Philby menace de poursuite tout journal britannique qui affirmerait qu'il était un agent double. Un député travailliste, Marcus Lipton, protégé par l'immunité parlementaire, porte alors l'affaire en pleine chambre des communes. Le scandale est tel que Harold Macmillan, le ministre des Affaires étrangères, doit prendre la parole devant les députés.
Je n'ai aucune raison de conclure que M. Philby a trahi les intérêts de son pays, ni de l'identifier comme étant le troisième homme, pour autant qu'il y en ait eu un.
Renforcé par la déclaration du ministre, Kim Philby a alors une idée de génie. Il convoque la presse pour le lendemain matin, 8 novembre 1955 à 11h, au domicile de sa mère, dans le centre de Londres. Dans le film de la conférence de presse, on voit à quel point Philby a soigné sa mise en scène, digne de Hitchcock. Séduisant dans son costume à fines rayures, souriant, détendu, du moins en a-t-il l'air, il reçoit les journalistes dans son salon de pur style victorien, entre meubles anciens et photos de famille. Voyant qu'une dame est debout, il demande qu'on lui donne un siège. Le ton est donné. Nous sommes dans le meilleur monde. Et à aucun moment, Philby ne va se démonter face aux questions parfois mordantes du journaliste de NBC.
Monsieur Philby, le ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que vous soyez celui qu'on appelle le troisième homme, qui aurait prévenu Burgess et McLean. Êtes-vous satisfait d'avoir été innocenté ?
Oui, je le suis.
S'il y a eu un troisième homme, est-ce que vous étiez ce troisième homme ?
Non, je ne l'étais pas.
Vous pensez qu'il y en avait un ?
Pas de commentaire.
La disparition de Burgess et McLean reste un mystère aujourd'hui, autant que lorsqu'ils sont partis il y a 4 ans ou plus. Vous pouvez nous en dire plus ?
Non, pas du tout.
Monsieur Philby, au Foreign Office, on vous a demandé de démissionner quelques mois après la disparition de Burgess et MacLean. Et on a dit que vous aviez eu des liens avec les communistes. Est-ce pour cette raison qu'on vous a demandé de démissionner ?
On m'avait demandé de démissionner à cause de mes liens avec Burgess et à cause de sa disparition. À partir de maintenant, je n'ai plus de commentaires à faire.
Pouvez-vous nous dire quand vos liens avec les communistes ont cessé ? Je suppose qu'ils ont cessé.
La dernière fois que j'ai parlé à un communiste, en sachant qu'il était un communiste, c'était en 1934.
Philby ment sans vergogne et avec talent. Une performance à couper le souffle, dira Yuri Moudin, son officier traitant. Et cette comédie de l'innocence fait mouche. Philby, encore une fois, l'a échappé belle. Il n'est plus inquiété. Il réussit même, grâce à de vieilles connaissances de Cambridge et du MI6, qui n'ont jamais cru en sa culpabilité, à se faire embaucher comme correspondant de presse à Beyrouth. Mais cet emploi de journaliste, en réalité, n'est qu'une couverture. Car chose incroyable, Philby est de nouveau rétribué par le MI6 pour fournir des informations sur le Moyen-Orient. Et comme les vieilles habitudes sont coriaces, notre espion reprend du service également auprès du KGB. À Beyrouth, Philby partage la vie facile et mondaine des correspondants de presse et des diplomates. Eileen, sa femme restée en Angleterre, meurt en 1957. La mort d'un petit renard que Philby avait domestiqué dans son appartement à Beyrouth lui arrachera plus de larmes que la perte de sa femme. L'homme, désormais seul, au passé auréolé de mystère et qui n'a rien perdu de son charme, séduit les hommes et les femmes, avec un net penchant pour les femmes mariées. Il entame une liaison avec Eleanor Brewer, l'épouse d'un journaliste américain qu'il finira par épouser. Ce qu'il ignore, c'est que Brewer et d'autres agents américains à Beyrouth sont chargés de le surveiller. Car le MI6 et la CIA ont en main de nouvelles cartes. À Londres, Flora Salomon, une femme qui a connu Philby dans les années 30, informe le MI6 qu'à l'époque, le jeune étudiant communiste recrutait des sympathisants pour l'URSS. Et à Washington, Anatoly Golitsyn, un officier du KGB qui vient de faire défection, confirme à la CIA que Philby est bien le troisième homme. En 1962, Philby, qui sent peut-être que le piège est en train de se refermer sur lui, tombe dans une profonde dépression et boit de plus en plus. Le fils d'un agent américain se souvient bien de lui et d'Eléonore à Beyrouth.
Philby était tout le temps là, et il était tout le temps sous, il bafouillait. Et je me souviens avoir demandé une fois à mon père, mais pourquoi on invite toujours les Philby ? Et il m'a dit, ferme-la. Il ne m'a pas dit pourquoi je devais me la fermer. C'était parce que la CIA lui avait dit, écoute, on n'a pas confiance dans ce type. Puisque tu es à Beyrouth, garde un œil sur lui. Et au bout du compte, la meilleure manière de surveiller Philby, c'était de l'inviter à toutes les soirées.
Et à la CIA, Jim Angleton invite ses agents à Beyrouth à se méfier de Philby. Les services secrets britanniques envoient alors à Beyrouth un de leurs agents, Nicholas Elliott, qui est aussi un vieil ami de Philby. En janvier 1963, Elliott rencontre secrètement Philby, qui après de longues heures finit par lui lâcher des aveux confus. Elliott lui promet alors qu'en échange d'une confession écrite, le MI6 lui garantira l'immunité. Philby donne son accord, mais demande un délai de réflexion. Curieusement, Elliott, qui sans doute peut imaginer que Philby risque de s'enfuir, accepte ce délai. On se demandera par la suite si Elliott, et derrière lui le MI6, n'avait pas tout intérêt à voir Philby disparaître, emportant avec lui des secrets embarrassants. Quelques jours plus tard, un nouveau rendez-vous est fixé pour le 24 janvier. Mais ce jour-là, Philby aura disparu. Il faudra bien des années pour reconstituer le déroulement de cette disparition. Le 23 janvier dans l'après-midi, alors qu'une pluie battante s'est abattue sur Beyrouth, Philby guette à la fenêtre de chez lui. Si Petoukov, son agent du KGB, passe devant l'immeuble un journal à la main, cela signifie qu'il veut le voir. S'il tient un livre, cela veut dire que tout est prêt et qu'il faut partir immédiatement. Philby aperçoit enfin Petoukov, avec un livre à la main. En une seconde, Philby comprend que sa vie est en train de basculer. Et avec son sang-froid habituel, comme si de rien n'était, il saisit son imperméable et son écharpe, et après un au revoir aussi banal que possible, sort de chez lui. 2 heures plus tard, il appelle sa femme. Qu'elle parte seule au dîner où ils sont conviés. Il la rejoindra. Mais ce soir-là, au lieu de la rejoindre, Philby monte dans une voiture de l'ambassade soviétique qui prend la direction du port, puis il embarque sur le Dolmatova, un cargo russe en partance pour Odessa. Comme Burgess et McLean 12 ans plus tôt, on apprendra que l'homme disparu à Beyrouth a fait défection en URSS et qu'il était donc bien le troisième homme. Un officier du MI6 se souvient.
Je trouvais que c'était un homme charmant, excellent. Je ne pouvais penser un instant qu'il était l'homme qu'il était.
Quelle sorte de personne était-il ?
Un gentleman.
Qu'avez-vous ressenti quand vous avez su que c'était un espion soviétique ?
Je crois que j'ai pensé qu'il était très malin et nous très stupides.
Ça a été un choc ?
Énorme.
Que pense l'ex-étudiant marxiste-léniniste qui a dédié sa vie à l'Union soviétique quand, à 51 ans, il découvre pour la première fois la patrie de son cœur ? À Moscou, Kim Philby se voit offrir un bel appartement, mais il est surveillé jour et nuit. Il lui est interdit de parler aux étrangers. Lui qui pensait être reçu en URSS avec les honneurs d'un officier, découvre que le KGB se méfie toujours de lui. Philby devra attendre 14 ans avant d'être reçu par le centre, la direction des services secrets russes, et 1988, juste avant sa mort, pour répondre aux questions d'un journaliste étranger. Sa femme, Éléonore, très choquée par sa fuite de Beyrouth, le rejoindra tout de même à Moscou, mais ne supportant pas la vie russe, elle finira par le quitter. De 1963 à sa mort en 1988, Philby mène à Moscou une vie assez solitaire, voyant de temps en temps Donald McLean arriver en URSS 12 ans avant lui. Burgess, lui, est mort en 1963 dans la solitude et l'alcool. Chez lui, Philby lit, travaille un peu, suit les matchs de cricket à la radio anglaise et à partir de 6 heures, il se met à boire. L'ex-espion qui se fait envoyer d'Angleterre des pots de marmelade d'orange et de marmite a sans doute le mal du pays. Mais que pense-t-il de l'Union soviétique, d'Andropov et de Brejnev ? Des agents du KGB sympathisent avec lui. Vladimir Cherkachine.
Je lui ai fait visiter Moscou. Dans une de nos promenades, il a commencé à me poser des questions. Comment pouvez-vous vivre dans de telles conditions ? Comment pouvez-vous vivre avec un tel salaire ? Il savait certaines choses et voulait que je lui dise la vérité. Et je l'ai fait à l'époque. Vous vous rendez compte ? Je lui ai dit combien un ouvrier et un employé gagnaient, combien j'avais, il n'en revenait pas. Il ne comprenait pas comment on pouvait s'en sortir.
Et Mikhail Lyubimov, juste après l'expulsion de l'écrivain dissident Alexandre Solzhenitsyn.
Il a vu que la vie ici n'était pas du tout le paradis. Il a vu le pouvoir du KGB. Il a vu l'absence de liberté. Je me souviens qu'après une bonne bouteille de scotch, il a dit « Pourquoi expulsez-vous Solzhenitsyn de Russie ?» Je lui dis « Écoute, Kim, je ne suis pas responsable de ça. » Mais non, il m'a dit, vous êtes responsable de ça, vous êtes responsable, et je suis responsable. Donc, il était désillusionné.
En 1970, le KGB se met en quête d'une femme pour Philby. La rencontre est organisée lors d'une compétition de patinage artistique. Rufina, 20 ans plus jeune, lui apportera une forme de réconfort. Philby le dit lui-même.
Toutes ces histoires selon lesquelles je vivrais dans la pauvreté, que je voudrais rentrer en Angleterre, ce sont des bêtises. Comment pourrais-je être malheureux ? J'ai une femme merveilleuse, j'ai des collègues merveilleux, pas seulement à Moscou, mais dans toute l'Union soviétique. Partout où je vais, je rencontre des gens charmants. Logement, transport, confort, magasin, j'ai tout. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'd like to go back to England for a month. J'aimerais bien retourner un mois en Angleterre, y faire un tour pour voir si ça a changé. Et j'aimerais passer deux mois en France. C'est un pays que j'adore. Le fait est que dans ma vie d'adulte, j'ai passé plus de temps en Union soviétique que n'importe où dans le monde, l'Angleterre comprise. À 70 ans, j'ai fait mon testament, où je demande à être enterré en Union soviétique.
Mais Kim Philby parle-t-il ainsi par pure fierté pour ne pas renier ses choix de jeunesse ? Une archive filmée de 1981, découverte récemment, montre un Philby extrêmement en verve, s'exprimant devant la Stasi, la terrible police secrète d'Allemagne de l'Est.
Chers camarades, je dois vous prévenir, je ne suis pas un orateur. Presque toute ma vie, j'ai fait en sorte d'éviter la publicité.
Philby décrit aux agents de la Stasi son travail d'espion pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tous les soirs, je quittais mon bureau avec ma grosse mallette, remplie de rapports que j'avais moi-même rédigés, remplie de dossiers venant des archives. Je les apportais le soir à mon contact soviétique. Le lendemain matin, je récupérais les dossiers, mon contact les avait photographiés, je les rapportais tôt le matin et les remettais à leur place. Cela, je l'ai fait régulièrement pendant des années.
Puis il explique comment il a réussi à confondre tout le monde.
Par-dessus tout, parce que je suis né dans la classe dirigeante britannique, parce que je connaissais beaucoup de gens influents, je savais qu'il ne serait jamais trop sévère avec moi.
Une belle leçon de cynisme. Kim Philby, qui meurt le 11 janvier 1988, a droit à des funérailles grandioses. Dans le plus pur style soviétique, brillant de ses derniers feux. Peut-être par chance pour lui, le vieil espion ne voit pas l'année suivante tomber le mur de Berlin, vivant symbole de sa double vie. Mais aujourd'hui en Russie, étrangement, le mythe Philby a repris des couleurs. En septembre 2020, Vladimir Poutine a annoncé la création d'un site officiel pour honorer les cinq de Cambridge, provoquant un certain émoi au Royaume-Uni. Depuis 2018, une place à Moscou, un timbre, porte son nom. En 2017, à Moscou, à une exposition qui lui était consacrée, on pouvait lire dans une vitrine un message qui laisse rêveur, écrit en 1977 par Kim Philby.
J'exprime l'espoir que nous vivrons pour voir un jour le drapeau rouge flotter au-dessus de la Maison Blanche et de Buckingham Palace.
Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter.